Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Paroles et Pensées dirigés par Jean-René Ladmiral, préenregistré le 20 septembre 2016, diffusé lundi 7 novembre de 10h45 à 11h45. Ils seront diffusés en différé mardi de 6h à 7h et de 14h à 15h, samedi de 10h45 à 11h45, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Bonjour, ici Jean-René Ladmiral. L'émission que vous allez entendre a sa place dans la rubrique générale Livre du jour. Et plus précisément, il s'agit d'une série que j'ai accepté de diriger, auquel j'ai donné le nom Paroles et Pensées. Nous sommes bien sûr sur Radio Courtoisie et j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Philippe Bilger, que nous allons présenter un peu plus en détail, et François Godot qui accepte de nous assister de son savoir et de sa modestie. Alors, je vais peut-être commencer très simplement, Philippe Bilger, en vous demandant quelques mots de présentation. D'abord, par exemple, nous savons que vous avez été avocat général et peut-être en quelques minutes, quelques instants, peut-être remettre en place ce concept d'avocat général et d'avocat. Au début, quand nous avons fait connaissance, j'étais tenté de vous appeler maître. Vous m'avez dit surtout pas. Peut-être est-ce l'occasion d'entrer dans d'une entrée en matière un peu simple.
Maître n'est pas une offense, comprenez bien, mais j'ai été en effet durant 40 ans magistrat et plus de 20 ans avocat général à la Cour d'assises de Paris. Alors, avocat général, c'est à la fois un titre, j'étais avocat général à la Cour d'appel de Paris, et c'est une fonction puisque tout le ministère public qui représente l'accusation aux assises est dit monsieur l'avocat général. En ce qui me concerne, je l'étais, je dirais, grâce à mon titre également, puisque durant plus de 20 ans, j'ai représenté l'accusation à la Cour d'assises de Paris. Et lorsque je suis amené à faire des conférences pour expliquer le rôle de l'avocat général aux assises, je dis, pour être le plus simple possible, au fond, l'avocat général aux assises, il est l'avocat de tous les citoyens, si vous voulez. Alors que l'avocat de l'accusé est naturellement l'avocat de celui qui a été renvoyé devant la cour d'assises, et l'avocat de la partie civile est l'avocat ou bien de la victime ou bien de sa famille lorsque la première, malheureusement, a disparu. Donc je suis l'avocat général, était l'avocat de tous les citoyens et la voix sociale en quelque sorte. Et évidemment, ça a été une fonction qui m'a profondément plus imprégné, passionné, et je l'ai quitté donc en octobre 2011.
Comme j'ai coutume de le dire, on met à la casse un matériel en parfait état de marche. Moi-même, quand j'ai été mis à la retraite, selon le statut des fonctionnaires de mon métier d'universitaire à Nanterre, les amis m'ont dit « Alors, t'as pris ta retraite ?» J'ai dit « Non, non, j'ai pas pris ma retraite, c'est ma retraite qui m'a pris. » Et j'aurais aimé exercer la parole enseignante beaucoup plus longtemps, et je dis un peu comme Molière et comme Dalida, mourir en scène.
Alors, moi, j'ai eu la chance, je ne dirais pas que j'ai été mis à la casse, si vous voulez. J'ai été officiellement en retraite en 2009. La magistrature castrature, lorsqu'on a une progéniture qu'on aime, permet de reprendre un petit peu de service. On nous appelle d'ailleurs les repris de justice. Et au fond, j'ai prolongé de 2 ans jusqu'en 2011. J'aurais pu encore faire une année. Et à partir de 2011, j'ai décidé de quitter la magistrature parce que j'avais d'autres projets.
Alors, justement, parmi ces projets, vous avez fondé un institut de la parole. À l'occasion de quelques émissions auxquelles vous avez participé à Radio Courtoisie, il s'est trouvé que cet institut de la parole dont vous avez pris l'initiative et que vous avez fondé a été mentionné sans que on sache vraiment de quoi il s'agit, parce que vous étiez amené à parler d'autres sujets. Et c'est pourquoi j'ai pensé que cette émission-là, l'émission que nous faisons ensemble aujourd'hui, pourrait être consacrée à cet institut de la parole. Mais peut-être un mot avant, je suis un tout jeune directeur de programme, donc un petit peu expérimenté, et j'ai oublié de dire 2 choses essentielles. Donc non seulement nous sommes bien sur Radio Courtoisie, non seulement il s'agit de l'émission Parole et pensée, où je reçois Philippe Bilger, mais j'ai oublié de dire que c'est une émission enregistrée, préenregistrée, et qui passera plus tard, et que donc les auditeurs ne peuvent pas envoyer de message. Et donc je regrette de ne pas avoir pensé à le dire plus tôt, et je dois dire que donc qu'il est prévu que cette émission soit diffusée le 7 novembre, comme d'habitude pour cette émission-là, de 10h45 à 11h45, le lundi 7 novembre. Et donc nous revenons à cet Institut de la Parole en vous demandant, Philippe Bilger, un petit peu un historique de la Fondation et le projet surtout, puisque la parole, c'est ce qui nous intéresse ici dans cette émission, qui s'appelle Parole et pensée. Et j'ai imaginé que pour cette émission spécifique, cet épisode de l'émission, notre titre d'aujourd'hui pourrait être « Bien parler, c'est bien penser ».
Alors, j'ai toujours été passionné par la parole des autres et probablement par celle que je voulais avoir. Probablement par un héritage familial et tout simplement parce que, n'étant pas doué pour les arts sociaux, il fallait bien que je perfectionne le seul outil qui était à ma disposition pour m'insérer correctement dans la société et dans la vie. Et évidemment, la cour d'assises que j'évoquais, où j'ai été plus de 20 ans, était un domaine privilégié pour la parole. Et pendant longtemps, bien sûr, j'avais une sorte de dilection un peu naïve pour l'éloquence. Et puis, j'ai constaté peu à peu qu'il y avait plus d'éloquence prétendue que d'éloquence réelle. Et j'en suis arrivé à la conclusion que l'éloquence, au fond, n'était qu'une cerise sur un gâteau. Et cette éloquence était dévastatrice parce que trop souvent, elle couronnait un gâteau absolument vide. Et au fond, peu à peu, en écoutant les plaidoiries, en m'intéressant à la politique, en réfléchissant sur moi-même, j'ai compris que je désirais plutôt, plus tard, enseigner la parole qui est l'outil humain fondamental et qui impose des vertus humaines de liberté, de sincérité et de spontanéité. Et donc, en écoutant la cour d'assises, en écoutant les plaidoiries, peu à peu, m'est venue l'idée que lorsque j'aurai quitté la magistrature, je chercherai à créer cet institut de la parole et c'est ce que j'ai fait au début de l'année 2012.
Oui, je voulais faire 2 remarques d'ordre étymologique à propos d'avocat, puisque le mot avocat vient de advocare, c'est-à-dire donner la voix pour demander la voix de quelqu'un d'autre. Et dans le cas de l'avocat général, je suppose qu'il s'agit de la voix de l'intérêt général.
Voilà, absolument.
Et voilà, et l'autre remarque, ça concerne l'éloquence, et je voulais faire la suite.
François Godon, ne regardez pas Philippe Bilger, parlez bien dans le micro.
Oui, c'est ce que je croyais faire.
Nos installations n'ont pas la sophistication technologique des radios et télévisions d'accord. payées par le contribuable, c'est-à-dire par nous.
Alors l'autre citation que je voulais faire, c'est une de La Rochefoucauld, qui dit « La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut ».
Sûrement, sûrement, mais on rentrera peut-être tout à l'heure dans les détails techniques de la formation que je propose. Bien sûr, la véritable éloquence ou l'authentique parole impose de fuir les digressions et de s'en tenir au corps structuré qu'on a dans la tête.
C'est peut-être l'occasion de continuer les remarques de vocabulaire. C'est le concept d'éloquence et le concept de rhétorique. Il n'est pas nécessaire que nous nous y arrêtions tout de suite, mais que nous ayons en tête cette idée. Et l'éloquence, ce serait donc une technique, quelque chose qu'on apprend pour mieux parler, et essentiellement, au départ, dans une perspective, justement, politico-judiciaire.
Oui, simplement, bien sûr... Je l'ai dit tout à l'heure, la cour d'assises est un espace de parole, mais pour ma part, j'ai toujours senti que la conception de la parole que j'avais, la parole qui surgissait de moi, venait moins d'une technique et de recette que d'un tempérament qui avait besoin de s'exprimer et de s'incarner tout entier dans la parole. Et c'est pour ça que mon institut de la parole n'est pas un institut qui dispense des recettes et des techniques faciles à retenir. C'est plutôt une formation qui dit à l'être qui vient me voir, au fond, vous n'aurez à vous encombrer que de vous-même, à compter sur les vertus qui sont indivises à l'humanité, liberté, spontanéité, sincérité, qualité du langage, intelligence. Autrement dit, à la fois, ça les rassure, puisqu'ils n'ont à se fonder que sur eux, et en même temps, il y a quelque chose d'inquiétant, vous le savez bien, c'est que plus personne aujourd'hui, profondément dans quelque secteur que ce soit, ne sait parler en même temps qu'il élabore sa pensée.
Est-ce qu'on peut dire plus personne, ou est-ce que, peut-être pour être pas plus précis, mais faire apparaître une autre sensibilité, il y a plutôt une sorte de dévalorisation de la parole qui fait qu'on parle avant de penser, on parle au lieu de penser, d'où ce titre « Bien parler, c'est bien penser », et que par ailleurs, de façon complémentaire, il y a aussi une non-maîtrise de la langue maternelle. Il y a une dégradation de la maîtrise de la langue maternelle, et je pense qu'à la fois... une certaine légèreté dans le contenu et un certain laxisme dans la forme, c'est cela qui explique un petit peu, ou même beaucoup, cette dégradation de la parole que vous indiquez.
Sûrement. D'ailleurs, lorsque je commence la formation de 2 heures ou 3 heures, je commence par mettre en évidence 2 préceptes qui sont, me semble-t-il, tout à fait fondamentaux. Je dis d'abord, la parole est une chance. Je demande à la personne qui me fait l'honneur de venir me voir, de retenir cette idée forte. La parole est une chance. Autrement dit, ça veut dire que je souhaite que la personne, lorsqu'elle a la chance de s'exprimer publiquement, change le rapport de force qu'en général on a avec la parole, parce que la plupart des gens à qui on donne la parole et qui vont avoir la charge de l'exprimer librement traînent des pieds et de l'esprit et en ont peur. Alors qu'au fond, je voudrais qu'ils se disent, Philippe Bilger, lorsqu'il nous donne l'occasion de nous exprimer publiquement, va nous permettre de montrer ce qu'on vaut. Et le deuxième précepte suit naturellement le premier, c'est « je parle donc je suis ». La parole authentique, la parole pleine dont parlait Lacan, comme preuve de l'affirmation de soi et comme preuve de l'existence d'une personnalité, je ne crois pas qu'il y ait tout de même de meilleur outil que la parole pour démontrer la validité de ce qu'on est et pour manifester le lien qu'on veut avoir avec autrui.
Et dans la formation que vous donnez, parce que c'est ça qui est en cause, cet institut de la parole, c'est donc suppléer à ce déficit de la parole que vous avez évoqué et auquel j'ai apporté moi-même l'interprétation qui me paraît l'éclairer. Alors au départ, donc on parlait de l'éloquence et effectivement j'ai maladroitement parlé de technique. Le mot de formation que vous avez employé est plus adéquat, mais ce qui apparaît dans ce que vous dites et peut-être dans l'expérience que beaucoup ont de la chose, c'est que, en somme, l'éloquence, c'est plus un talent, un tempérament. On dit « il est éloquent ». Ça n'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études d'avocat, ça n'est pas forcément quelqu'un qui a même fait des études de lettres, mais qui a des convictions assez claires et une maîtrise du langage suffisante pour exprimer clairement ce qu'il veut et convaincre, persuader, convaincre ceux qui l'écoutent, ceux qui acceptent de l'écouter.
Bien sûr. Alors, encore une fois, je distingue, non pas radicalement, mais sensiblement, l'éloquence de la parole. C'est très clair. L'éloquence, je l'ai dit tout à l'heure, elle est un ornement qui a du sens, bien sûr, si elle se greffe sur un capital qui est dense. Mais souvent, ça n'est pas le cas. Et entendons-nous bien, je ne prétends pas enseigner la parole à ceux qui la possède. Simplement, il y a des gens qui ne maîtrisent la parole que de manière imparfaite et qui ont besoin en permanence de support extérieur, alors que je crois que oser se lancer dans l'espace public avec une parole libre, improvisée, structurée dans la tête, d'abord ça offre l'impression d'un élan, d'une coulée d'existence impressionnante, et d'autre part, par rapport à l'ensemble des discours, on est sûr, en parlant de cette manière, de ne jamais ennuyer. Et au fond, les déclinaisons de la parole que j'enseigne, elles sont valables dans tous les secteurs de la vie intellectuelle et sociale. Parole judiciaire, parole professionnelle, parole médiatique, parole culturelle. Bien sûr, je dirais que la parole dont je veux montrer l'importance à mes invités, c'est une parole, bien sûr, qui est valable, y compris sur le plan professionnel. C'est là où, bien sûr, je me distingue des formations classiques. Ma vocation n'est pas uniquement d'enseigner un outil uniquement pour le but professionnel. C'est quelque chose qui doit irriguer toute l'humanité qu'un être incarne.
Il y a une formule de Françoise Dolto que j'aime bien, Françoise Dolto, la psychanalyste que l'on connaît, qui disait que l'homme est un par-lettre. Et alors effectivement, le langage, l'exercice du langage est tout à fait fondamental dans notre essence même d'être humain.
Bien sûr, et c'est pour cela que, sans doute, j'ai théorisé mes propres faiblesses, mais je n'ai jamais pu de ma vie, et je le dis sans aucune présomption, parler autrement que comme ça. La seule fois où dans ma vie j'ai été obligé d'écrire un texte, c'était devant l'Institut de France, parce qu'il c'était une prescription impérative, et ça a été une catastrophe, parce que je ne savais pas lire, je voulais me détacher du texte, et en même temps, il fallait que je le lise, et donc, c'est la seule fois de ma vie, la plupart du temps, et tout le temps, en réalité, je suis beaucoup plus à l'aise. Je ne dis pas que c'est brillant, mais en tout cas, moi-même, je me sens mieux lorsque la parole surgit de mon être et que je l'ai structurée de manière très rigide dans la tête. Ce qu'on comprend difficilement, c'est que lorsqu'on parle librement, sincèrement, à la suite d'une quasi-improvisation, on ne peut pas se le permettre n'importe comment. Pour parler comme cela, il faut au contraire avoir une structuration très rigide dans la tête en amont.
Il faut avoir un contenu.
Absolument.
Mais je voudrais attirer l'attention sur deux problèmes que nous aborderons peut-être. C'est d'une part ce problème du rapport entre l'improvisation orale et le support écrit qu'il y a ou qu'il n'y a pas. J'ai été frappé, enfin je vais revenir, et puis par ailleurs le problème des blocages. Et il me semble que nous faisons l'impasse sur le niveau zéro même de la parole. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui rend la parole difficile? Il peut y avoir un déficit de formation, un déficit de maîtrise de la langue, il peut y avoir ces choses-là, mais il peut y avoir aussi des blocages préalables qu'on peut expliquer, me semble-t-il, ou dont on peut rendre compte à partir de deux sources. C'est d'une part le cadre institutionnel, où est-ce que je parle, à qui, dans quelles conditions, est-ce que je maîtrise le jeu, est-ce que je m'exagère les contraintes de l'institution dans laquelle j'ai à parler, un tribunal, une arène politique, un colloque universitaire, où il y a des règles, où du moins on est censé respecter des règles, ou on peut penser qu'il y a des règles qu'on est censé respecter. Ce serait la première chose, ce serait les blocages institutionnels, et puis il y aurait les blocages psychologiques. Parler devant un public, c'est pour certains, et ça a été sans doute pour vous le cas au début, en tout cas ça a été pour moi le cas, au début, mes premières interventions publiques, j'étais glacé d'épouvante. Et encore maintenant, quand je dois prendre la parole en public, en général, je traque énormément et je m'identifie à Edith Piaf ou à d'autres chanteuses qui, avant d'entrer sur scène, ou par exemple Luchini, qui paraît-il est malade avant d'entrer sur scène, alors je n'ai pas à ce niveau-là, mais j'ai encore le trac avant d'entrer sur scène et de tenir un discours devant un public. Alors je voulais indiquer ces deux choses-là, c'est le préalable des blocages ou institutionnels ou psychologiques, et puis on reviendra sur le rapport entre improvisation et support écrit.
Alors je serais plus nuancé moi-même, en réalité la parole, si on n'a pas une seconde de trac au moment où on va parler, c'est que probablement on ne maîtrise pas bien la parole. En revanche, je ne l'ai pas au point où vous l'avez eu. C'est-à-dire que la parole, c'est aussi quelque chose qu'on désire donner à l'autre rapidement. Et donc le trac est très vite dominé, et bien sûr, c'est un bonheur après de savoir qu'on est englouti par une parole qu'on développe librement. Le deuxième élément, il est vrai que très souvent, lorsque je vois les défaillances ou que j'entends les entraves, c'est parce que l'être qui parle a l'impression, parlant, d'être jugé par les autres, et par conséquent il a une sorte de timidité, il a une sorte d'entrave, il se dit au fond je suis médiocre voire nul et les autres sont remarquables. Alors je dirais que sur ce plan il faut tenter de s'imprégner de l'idée que on est peut-être pas remarquable mais que le public qui nous écoute ne l'est pas davantage. Et puis deux autres choses.
Excusez-moi. Vous êtes un rationaliste. Vous pensez que nous sommes rationnels. Or, il me semble que l'idée que je suis mauvais et que les autres sont bons est une donnée psychologique sur laquelle la raison a peu de force.
Si, parce que tout de même, ça aide de savoir qu'en réalité, on n'est pas jugé et que, au fond, tout en ayant conscience de ce qu'on est, il ne faut pas surestimer l'écoute d'autrui. Mais je voudrais revenir sur deux éléments qui sont en effet les deux défaillances les plus structurelles que j'ai remarquées. Parce que pour avoir cette parole libre, bien sûr, il faut qu'on ait la capacité de l'irriguer, d'y mettre une substance. Et là, il y a deux écueils d'aujourd'hui, parlons net, une absence totale ou souvent impressionnante de culture générale et même de culture du quotidien. La culture générale, on sait ce que c'est. La culture du quotidien, c'est radio, télévision, lecture de journaux, cinéma, théâtre. C'est le premier point. Quand on n'a pas cette culture générale et qu'on n'a pas cette culture du quotidien, eh bien, on ne peut pas prétendre emplir sa parole de cette substance. Et le deuxième élément qui renvoie, me semble-t-il, et je veux tomber dans le caractère qui est le mien et que j'assume volontiers de réactionnaire, je pense que l'époque est clairement gangrenée par une forme de délitement intellectuel. C'est-à-dire que lorsque je demande à quelqu'un de choisir un sujet et qu'il doit le structurer dans la tête, eh bien, il a beaucoup de mal à faire surgir dans sa tête la multitude des problématiques qui doivent se relier à ce sujet. C'est le problème.
Avant de repartir, je veux rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le cadre des émissions intitulées Paroles et pensées, qui prend sa place sous l'intitulé très général des livres du jour. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Bilger dans le cadre d'une émission auquel nous avons donné le titre de « Bien parler, c'est bien penser ». Et nous aurions beaucoup de points à aborder, hélas le temps passe très vite. Je suis très sensible au caractère raisonnable de ce que vous dites et j'ai toujours tendance, en ce qui me concerne, à souligner toute la part, je dirais, préalable du trac, de l'incertitude. Et comme vous dites, ou plutôt comme vous avez tendance plutôt à minimiser ce problème, l'idée que je ne serai pas à la hauteur. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, il y a un moment où il faut se pardonner d'exister, ne tardez pas trop. C'est vrai pour la parole aussi.
Je ne minimise pas du tout la part psychologique, bien au contraire, puisque la formation que je propose, elle est au contraire fondée sur le lien irremplaçable entre l'affirmation de soi et l'expression de la parole. Je veux dire, je comprends bien toutes les entraves, mais ce dont je veux persuader celui qui vient me voir, c'est que en 3 heures, en tenant compte de mes conseils, en reliant profondément la parole que je lui suggère à l'affirmation de soi, eh bien, il peut infiniment progresser. Il va de soi que la part rationnelle n'est pas ce qui fondamentalement permet de parler librement et spontanément.
C'est un petit peu ce que je voulais vous faire dire, dans la mesure où moi j'ai tendance un petit peu à mettre l'accent sur la dimension psychologique, et si je comprends bien, vous allez me dire si vous confirmez mon interprétation, vous ne mésestimez pas cette dimension psychologique sur laquelle j'insiste, mais vous pensez que la meilleure façon de la traiter, c'est 1. L'affirmation de soi et 2. L'accent mis sur la compétence, la connaissance du contenu et l'exercice effectif de cette parole.
Oui, et puis bien sûr, une culture, la qualité du vocabulaire, le fil logique, l'affirmation de soi. Mais les êtres, peu à peu, découvrent en 3 heures à quel point ils sont capables de dépasser la parole d'aujourd'hui qui est faite d'apprentissage, de par cœur, de documents qu'on lit. Donc il est évident que je n'omets pas le fait que l'être qui parle n'est pas un être qui peut, à la demande, à la commande, tout à coup devenir talentueux, libre, sincère, structuré. Mais on peut le faire. Ce dont je veux le persuader, c'est que en venant me voir, il découvrira l'immense territoire de la parole libre et il sera très étonné tout à coup de sentir surgir de lui-même une parole qu'il n'imaginait pas pouvoir proférer.
Et ça correspond au fait que on se découvre plus de talent qu'on a.
Oui, alors le talent, à la limite, bon, je n'exige pas l'imparfait du subjonctif. Le talent, c'est peut-être un petit peu comme l'éloquence tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient miraculeusement couronner une intelligence et une parole qui déjà savent se structurer dans la liberté de la tête. Mais si en plus il y a le talent, si on découvre en soi des trésors sur ce plan-là, c'est merveilleux.
Mais nous avons en commun, apparemment vous, Philippe Bilger et moi-même, vous comme avocat général et moi comme professeur, le goût de l'improvisation, c'est-à-dire la volonté de ne pas s'enfermer dans un papier écrit que nous lirions. Alors je trouve que c'est très important dans l'enseignement en général et surtout dans la communication scientifique, dans un colloque par exemple, dans la mesure où quand on lit son texte, on ennuie le plus souvent.
Bien sûr.
Et il s'agit, je dirais que le public entend l'incertitude qu'il y a dans l'improvisation. Et j'ai coutume de dire que c'est un petit peu comme quand il va au cirque, où il se dit que c'est peut-être aujourd'hui que les lions vont manger le dompteur. Et que ça donne une urgence à la séance qui fait que le public participe à la parole parce qu'il sent la part d'incertitude et en même temps, il a l'occasion de voir que cette incertitude est dominée.
Et puis, il faut deux choses. Encore une fois, la parole qui surgit de moi, que j'essaye de rendre la moins imparfaite possible, ça n'est pas quelque chose qui relève chez moi d'une stratégie professionnelle. Elle est toujours née, elle a surgi de moi de cette manière. C'est une question de tempérament, de personnalité et non pas une recette professionnelle. Tout cela est fondamental pour moi et donc ça n'est pas quelque chose, rien ne m'exaspère plus que lorsque je fais des conférences qu'à l'issue de celle-ci, des gens croient venir me féliciter en disant « Ah oui, c'est le métier », mais absolument pas. La parole que j'enseigne, c'est celle qui m'a toujours habité, qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'univers professionnel. Et cela, c'est tout à fait... Mais là où vous avez raison, quand vous parlez du public, lorsque nous nous adressons aux autres, il faut que nous ayons non seulement la parole qui parle, si j'ose dire, mais le regard qui parle. Et de la même manière, en face de nous, nous avons un public dont le regard aussi écoute. Et rien n'est plus fondamental dans la parole, aussi paradoxal que cela apparaisse, que l'écoute qui vient l'irriguer.
Ce serait peut-être l'occasion d'introduire une distinction entre deux types de paroles. Une parole de dialogue avec des individus en nombre limité, une personne, deux ou trois, des gens qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître à travers le dialogue et la parole, et puis le fait de s'adresser à un public, c'est-à-dire un groupe important de gens qu'on ne connaît pas, même quand, pour des raisons professionnelles, vous dans un tribunal, moi dans un amphithéâtre, nous pouvons imaginer à peu près, non pas le portrait robot, mais quelques traits que sembleraient partager les individus de ce public. Sauf que un public est par définition plus ou moins hétérogène et que par ailleurs, le rapport, je dirais, à la parole est différent. Et alors je dirais que dans un cas, on s'adresse à la raison ou au sentiment d'individus et on construit un réseau relationnel dans le courant de la parole. Et je dirais que, en tout cas c'est mon expérience, je dirais que devant un public, on est dans une position beaucoup plus offensive et à la fois plus incertaine et plus offensive, puisque il faut amener les gens à participer, à comprendre et si possible à adhérer à un discours qu'on a non pas forcément rédigé, mais qu'en tout cas on a en tête. On sait vers où on va.
Oui, votre distinction, je la trouve tout à fait pertinente, même si, bien sûr, je considère que dans le dialogue, devant 10, 20, 30 personnes, comme devant une salle de 200 à 300 personnes, même si la démarche intellectuelle n'est pas la même, le terreau qui fonde la parole de qualité demeure le même. Si vous voulez simplement, bien sûr, le dialogue impose un certain type de parole et une capacité d'écoute que le discours devant une salle ne suscite pas naturellement. Mais je voudrais insister sur le fait que même devant une salle, le discours surgissant de soi doit intégrer un certain nombre d'éléments, notamment une exigence que je place au plus haut, c'est le fait de penser contre soi-même qui permet de proposer au public sur n'importe quel sujet une globalité, une appréhension globale du sujet qu'on traite, de telle manière que l'auditeur ait la certitude d'avoir en face de lui non seulement quelqu'un d'honnête éventuellement talentueux, mais quelqu'un qui a su aborder toutes les facettes du problème qu'il expose. Et au fond, pour rejoindre votre appréciation tout à l'heure, pour moi, la parole en public devant 400 personnes, comme devant 30, comme dans les colloques où on intervient, c'est plutôt une coulée d'existence, un flux de vie, qu'une opération rationnelle.
Oui. Un flux de vie, c'est une façon donc de subsumer, de réunir à la fois les contenus, les convictions, et puis en même temps la part de séduction qui doit opérer à la fois par la rhétorique, l'éloquence, l'utilisation si possible esthétique du langage, et puis je dirais le côté théâtral. Moi, je suis très sensible au fait que la parole publique est largement théâtrale.
Alors là, je ne le crois pas. J'ai beaucoup entendu, évidemment, dénigrer parfois la théâtralité de la cour d'assises. Pour ma part, je n'ai jamais considéré que la cour d'assises était théâtrale parce qu'en réalité, elle n'a de sens que lorsque le discours est vrai. Mais je voudrais revenir au début de votre question. Je crois que ce qui fonde de toute manière une parole authentique, c'est profondément non pas la rhétorique, non pas le choix d'arguments dont on pense qu'ils vont plaire, c'est d'abord non seulement la liberté, mais l'absolue sincérité de la parole qu'on propose. On ne peut pas être bon, on ne peut pas avoir une parole de qualité si on a la distance inévitable entre une parole qu'on endosse sans y croire profondément et l'être qui l'exprime. C'est pour cela que, évidemment, la parole politique est très dure, est très difficilement audible parce qu'elle considère, et parfois elle ne peut pas être vraie. Et au fond, c'est très simple, une parole authentique et une parole de qualité. Il suffirait que dans tous les secteurs de la vie, on se dise que la seule règle, le seul impératif, c'est de dire ce qu'on a envie de dire et d'avoir le courage de le dire. Si possible, de bien le dire.
Cela, je le rapporterai à notre conversation initiale distinguant l'avocat général et l'avocat. Et je vous avais appelé maître par erreur, vous m'avez dit que vous n'étiez pas du tout avocat, non pas que vous ayez des réticences, vous avez des avocats sans doute, mais quand même, l'avocat va devoir parfois tenir un discours profondément insincère dans la mesure où il défend quelqu'un qui en principe est à peine défendable. C'est son métier de lui donner ses chances,
oui.
Et par conséquent d'avoir un discours qui par définition va cacher certains aspects de la vérité ou les travestir à l'avantage de son client.
Pour revenir dans l'espace professionnel, vous mettez l'accent sur la raison essentielle qui a fait que je n'ai jamais voulu devenir avocat. C'est que le rapport à la vérité, pour moi, est fondamental. L'avocat, vous le savez, est choisi par une cause dont il va assumer la substance. Et certains, bien sûr, sont très remarquables sur le plan technique. Il y a quelques grands avocats, mais la plupart du temps, eh bien, l'exercice en matière pénale est maladroit et on a l'impression qu'au fond, la cause que l'avocat est obligé d'exprimer, eh bien, est maladroitement assumée. Mais l'avocat général, et puis l'être bilgère, si j'ose dire, ne s'est jamais posé ce problème. Je crois n'avoir jamais proféré, durant maintenant un certain nombre d'années, quelque chose à quoi je ne croyais pas. Et autrement dit, ça a créé parfois des problèmes, des difficultés, des débats, voire des controverses, mais au moins, je suis rassuré dans le rapport avec moi-même, je n'ai à compter que sur moi. Je n'ai pas à me poser des questions de tactique ou d'opportunisme, il suffit de dire ce qu'on pense.
Dans le cas de l'avocat général, s'il s'agit de l'intérêt général, c'est difficile de travestir la vérité ou la réalité. le juge est plus un rapport différent à la vérité de celui de l'avocat, naturellement.
Oui, mais vous savez, j'ai connu des avocats généraux qui sous-estimaient la séquence fondamentale de la cour d'assises, qui est l'oralité des débats. C'est-à-dire que la parole de l'accusation doit surgir à l'issue des débats et elle peut affirmer trois choses. Une culpabilité et donc requérir une condamnation. Elle peut affirmer une innocence et donc requérir un acquittement. Pour ma part, je n'ai jamais connu de coup de théâtre à la Monte Cristo. Et surtout, la parole de l'avocat général peut affirmer un doute substantiel et donc requérir aussi l'acquittement, mais c'est pas le même que celui de l'innocent. Mais j'ai connu des avocats généraux qui, avant, n'écoutaient absolument pas l'oralité des débats, qui avaient préparé leur réquisitoire avant d'arriver à l'audience et qui ne posaient pas une question durant deux ou trois jours pour ne pas altérer la pureté de l'écrit, ce qui est une catastrophe.
Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est l'auteur du portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. J'ai horreur des discussions parce que parfois ça me fait changer d'avis.
Absolument, c'est lui.
Et alors, justement, j'en reviens à cette distinction importante à mes yeux, qui est la parole dialoguante avec quelques individus, un ou quelques-uns, et puis la parole à un public. Dans un cas, on parle avec, et dans l'autre cas, on parle à. Et je voulais vous demander, dans le cadre du projet de votre Institut de la Parole, sans doute vous adressez-vous à une clientèle, de gens qui veulent reconquérir leur puissance de parole, leur capacité de parole, le terme de puissance est un peu trop fort, leur capacité de parole d'abord dans un dialogue avec des individus, ou est-ce que je me trompe, Philippe Bilger ?
L'Institut de la Parole, il a la fierté de s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire on peut avoir 15 ans, être un adolescent mal dans sa peau, et puis on peut être un professionnel de la parole publique de 70, 80 ou davantage, si on a conscience de l'imperfection de sa parole. En réalité, j'ai eu l'idée, il y a longtemps, de créer cet institut à partir d'un phénomène quotidien tout simple. J'avais autour de moi des adolescents que je savais très remarquables, intelligents, et lorsqu'ils étaient en public, même dans un cadre familial, ils ne disaient pas un mot et les imbéciles les prenaient pour des imbéciles. Et j'ai eu envie de dire que cette parole que j'enseignais, c'était aussi une manière pour ces natures-là d'avoir un rapport plus apaisé avec elles-mêmes, de savoir s'exprimer, et bien sûr, c'est encore plus vrai, quoique totalement différent, avec les professionnels de la parole publique. Je vois des gens qui ont cette habitude, mais qui, dès qu'on les met au défi de la liberté et de l'improvisation, ne savent plus quoi faire et ont une déperdition radicale de leur intelligence, de la qualité du langage, de la logique de la pensée, ce qui montre bien que cet exercice, cette formation, cette volonté de faire surgir l'humanité de soi sont des épreuves aujourd'hui parce qu'on n'est plus vraiment accoutumé à les faire.
Et sans doute, de ce point de vue, pourrions-nous, au moins très partiellement, nous inspirer de ce qui se pratique, par exemple, aux États-Unis, où il y a une importance donnée à l'école à cette parole et cette capacité de faire apparaître son point de vue. Alors, évidemment, l'idée, ça n'est pas de transformer l'école en lieu de vie où on bavarde, où on bavasse, comme c'est un petit peu la tendance, peut-être maintenant, non, mais à allier le rapport à l'écrit qui est le support de la transmission, en quoi réside le cœur de la fonction enseignante et de l'école, mais en même temps de promouvoir un rapport d'appropriation créative et critique à ces contenus qui doivent être transmis. Et c'est peut-être, on est peut-être placé devant là une alternative, une dualité où on choisit trop l'un l'un contre l'autre, alors qu'il faut les deux.
Vous avez raison, même si la France, dans le domaine de la parole professionnelle, en quelque sorte, fait beaucoup de progrès. J'ai été amené souvent à présider des jurys dans les universités où des étudiants avaient constitué, en quelque sorte, des exercices d'éloquence, ce qui montre que ça commence à devenir plus fréquent qu'à une certaine époque. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que enseigner la parole et éventuellement l'éloquence, puisque les gens en général télescopent l'éloquence et la parole, c'est bien, mais encore faut-il, et je dépasse très largement mon cas, qu'elle soit enseignée par des gens qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la parole. Lorsque ce sont des gens qui sont contentés de théoriser sur la parole, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et si je faisais une métaphore sportive, je trouve que quitte à apprendre la parole ou la perfectionner, il valait mieux demander à Federer qu'à Gasquet, vous voyez ?
Oui, c'est la fameuse histoire de la fameuse question de savoir si on apprend à nager avant d'aller dans la piscine ou en y allant. Et dans le deuxième cas, alors on se noierait, et dans le premier cas, on se noierait aussi parce qu'on n'aurait pas une expérience. Et effectivement, il y a là une opposition qui est résolue dans une dialectique de la pratique où on encadre celui qui commence en le confrontant quand même à la réalité.
En revanche, ce à quoi je crois profondément, lorsque les gens me quittent au bout de 3 heures, ils peuvent revenir me voir, mais je leur dis multiplier les exercices que vous avez faits avec moi. C'est-à-dire, choisissez n'importe quel sujet. Structurez-le dans votre tête, après les conseils que je vous donne. Sujet, annonce du plan, mot de synthèse de la première partie, mot de synthèse de la seconde partie et conclusion. Et puis, faites un discours devant la glace, devant votre épouse, devant votre époux, devant votre fils. Et voyez ce que ça donne. Multipliez ces exercices et vous verrez d'abord que vous progresserez. Et presque à la fin, vous y trouverez du plaisir parce que vous vous rendrez compte que vous perfectionnez ce que vous pensiez ne pas savoir faire.
Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie. Notre émission est celle qui porte le titre générique de Paroles et Pensées. Et dans ce cadre-là, j'ai le privilège de recevoir Philippe Bilger. Je vous rappelle que l'émission est enregistrée et que donc elle ne sera diffusée que le lundi 7 novembre de 10h45 à 11h45. Et je voulais justement poser une question très concrète, très au ras des pâquerettes, comme on se plaît à dire parfois à Philippe Bilger, sur sa façon de procéder. Et avant même que je lui pose la question, il a commencé à y répondre. Je vais redescendre encore d'un cran. Comment vient-on à l'Institut de la Parole? Quel type d'initiative? Comment ça se passe concrètement?
Eh bien, c'est très simple. J'ai un site, un Institut de la Parole, sur lequel il y a les diverses modalités de la formation que je propose, et évidemment les tarifs. J'ai le portable, j'ai le mail. Les gens qui viennent sur mon site me contactent, je leur réponds très rapidement parce que j'ai au moins cette qualité d'être réactif dans les échanges et on convient rapidement d'une date, matin ou après-midi, je les vois et alors c'est très simple. Ou bien je les vois durant 2 heures pour les étudiants et les particuliers ou davantage s'ils le souhaitent. Pour les sociétés, je vois les gens durant 3 heures et éventuellement pour les sociétés qui veulent me demander plusieurs formation pour des individus, ils me font un devis. La formation est très simple. Je fais d'abord lire une fable parce qu'il est important de voir le rapport à la lecture que chaque personne entretient. Il y a 1000 manières de lire et certaines sont très imparfaites, voire déficientes. Ensuite, je passe 1 heure, voire 1 heure et demie pour identifier avec la personne ses forces et ses faiblesses sur le plan de la psychologie et de l'intelligence par rapport aux exercices qui vont suivre. Et lorsque le dialogue sur ce plan est terminé, et ce dialogue est évidemment intégré dans la formation, parce que je vois la qualité du langage, la finesse psychologique et intellectuelle, le raisonnement, sa validité, sa logique, eh bien je fais le constat avec la personne de ses forces et de ses faiblesses. Et ensuite, je lui dis, maintenant, vous choisissez un sujet, n'importe lequel, vous le structurez dans votre tête, vous faites surgir dans votre tête une multitude de problématiques liées au sujet que vous avez choisi.
Avec un temps de préparation
5 minutes ou 10 s'ils le souhaitent, ils choisissent le délai durant lequel ils parleront et lorsqu'ils sont prêts, ils se lèvent. Et en général, ça n'est pas époustouflant dès le premier exercice, mais lorsqu'il est fait, eh bien on discute, on voit ce qui ne va pas et on passe au dernier exercice. Et là, pour leur donner une morale, je leur donne une feuille. Ils ont le droit de mettre des idées sur cette feuille, mais bien sûr, quand ils se relèvent, c'est le même principe. Ils n'ont pas la feuille et ils tentent de faire mieux ou encore plus brillamment que la première fois. Et les 3 heures passent très vite.
Deux questions techniques. Avez-vous tenté l'enregistrement ? Les sportifs font ça, ils enregistrent le match et ensuite ils regardent leur propre performance. Et moi je dois dire que le fait d'avoir assisté à des enregistrements vidéo ou écouté des enregistrements de mes conférences, ça a été extrêmement formateur parce que c'est une leçon de modestie. Et en même temps, on assiste à l'objectivation de ce qui nous apparaît comme des points faibles et ce qui nous apparaît comme des points forts. Et c'est un petit peu ce que vous faites de toute façon. La question, c'est avez-vous eu l'occasion, l'envie de pratiquer l'enregistrement et de faire ce miroir différé qu'est l'enregistrement ?
Non, je ne le fais pas. Il faut bien être clair, l'atmosphère dans laquelle se déroule la formation, je la qualifierais d'empathie critique. C'est-à-dire que je veux pouvoir tout dire à la personne qui vient me voir, le pire comme le meilleur, mais dans un esprit de totale bienveillance, puisque mon seul souci, c'est qu'elle découvre la parole ou qu'elle la perfectionne. Et donc, très généralement, lorsque les exercices sont faits, elle n'a aucune difficulté et au besoin, je l'aide pour découvrir ce qui n'a pas été. Elle le sait immédiatement et j'ai plutôt envie, en quelque sorte, de la rassurer en disant qu'elle s'est engagée sur un chemin où elle aura des progrès à faire mais qui n'est pas catastrophique. Et donc je n'ai jamais eu l'envie d'avoir ces supports mécaniques pour enregistrer une parole et l'écouter ensemble après.
Nous approchons la fin de cette émission Parole et pensée, où j'ai le privilège de recevoir Philippe Bilger. Et dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être pourrions-nous essayer de ponctualiser, de faire un peu une liste des problèmes que nous avons abordés ou que nous n'avons pas abordés, qui sont le problème des blocages, sur lesquels j'ai insisté, blocage institutionnel, blocage psychologique. Vous avez amplement parlé de du deuxième aspect des choses. Le rapport entre l'oral et l'écrit que vous venez d'aborder de façon précise, et j'avais tendance en ce qui me concerne à justement marquer une grande différence entre ceux qui lisent leurs textes et qui ennuient et ceux qui improvisent. Mais l'improvisation peut-elle se faire sans support? Je me souviens que certains disaient il faut que votre exposé tienne sur un ticket de métro.
L'improvisation, je l'ai dit tout à l'heure, l'apparente improvisation, puisque tout doit être structuré dans la tête, impose précisément une contrainte dans le cerveau qui fait que tout naturellement, eh bien, le sujet qu'on va développer devant une salle durant un quart d'heure ou une heure, il doit être très clairement structuré dans sa tête et qu'ensuite on compte sur sa capacité de langage pour le développer librement. Donc, encore une fois, structuration très rigide dans la tête pour permettre une liberté à peu près totale du propos. Et avec des erreurs, ça n'est pas grave. On paiera une rançon, en quelque sorte. Mais même ceux qui lisent, qui apprennent par cœur, payent une rançon et en plus, elle est double, puisqu'en plus de la rançon de l'imperfection, il y a celle de l'ennui.
Je résumerai ce que vous avez dit avec une formule à laquelle j'ai souvent recours. Le secret des bonnes improvisations, c'est de n'en être pas.
Oui, à condition que ce soit structuré dans la tête. J'insiste là-dessus.
Non, je voulais dire simplement que votre institut pourrait se référer à Démosthène, en quelque sorte.
Oui, mais je l'ai, en même temps, cher monsieur, je rassure les gens, et c'est très étrange et c'est très juste ce que vous dites, je leur dis, je n'ai pas pour vocation de faire de vous Démosthène ou Cicéron, je ne le suis pas moi-même. Donc à la fois, je les rassure sur ce plan en leur disant, comptez sur vous-même, mais en même temps, bien sûr, ils savent bien qu'on a un idéal à atteindre, que pas plus le formateur que l'élève n'est capable de l'atteindre.
Eh bien, nous approchons vraiment cette fois-ci de la fin de notre émission. Je rappelle qu'il s'agit d'une émission enregistrée et que donc je n'ai pas pu recevoir les messages des auditeurs. Nous recevions Philippe Bilger dans le cadre de l'émission Parole et Pensée sur les ondes de Radio Courtoisie. Et sans doute est-ce le moment de dire au revoir et merci à Philippe Bilger et à François Godeau, ainsi qu'à nos auditeurs qui ont eu la patience et sans doute, je l'espère, l'intérêt de nous écouter.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour Paroles et Pensées dirigés par Jean-René Ladmiral, préenregistrés le 20 septembre 2016, diffusés lundi 7 novembre de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé mardi de 6h à 7h et de 14h à 15h, samedi de 10h45 à 11h45, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.